dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Aujourd'hui, nous allons passer une heure en compagnie de Romain Saulier. Jeune artisan, il va nous parler de son métier de restaurateur et conservateur de mobilier ancien. Un métier où l'on est content quand le travail réalisé ne se voit pas.
Aujourd'hui, il sera question de passion et d'amour du métier. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de Romain Saulier, un univers aux odeurs de bois, de résines anciennes, rythmé par les caresses du rabot et de la gouge.
Le tout, selon le souhait de Romain pour cette émission, baigné d'un environnement aux sonorités manouches.
En fin d'émission, nous retrouverons Elsa Dauphin pour sa chronique poétique illustrée par une magnifique chanson de Juliette.
Et comme nous sommes en novembre, à mon tour de vous proposer de débuter cette heure par un hommage rendu au poilu gréviste de 1917 à travers une magnifique chanson écrite et composée il y a déjà 50 ans par Jacques de Broncard, Mutin de 1917.
Vous n'êtes pas au monument aux morts. Vous n'êtes même plus dans les mémoires comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort, et deux fois mort, à vos petits-enfants. L'on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas, Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffres et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Le rumeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement coquifié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, Mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre pain sur leur planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête. Se révolter lui paraissait énorme. Elle bavait encore devant l'uniforme. Mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de ces Marseillaises qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de faire comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute, à voir le train dont vont les choses, Mutin de 1917. 1917, mutin de 1917.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique.
Tu peux rentrer, Romain ?
Ouais.
Je ramène le dossier, super. Tu as sorti tout le matériel.
Oui, mais j'étais en train de sculpter là. J'attaque un pied, un volute.
Je peux éteindre la radio, le temps de.
Ouais, mais
je t'enregistre tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que tu fais là alors ?
Et du coup, ben, là, je refais les pieds Louis XV du Normand Louis XV. Donc, les pieds étaient tout vers mon lieu. Ils étaient complètement attaqués. Il y avait des restes de pieds, on va dire. Complètement vers mon lieu. Donc, il manque toute la partie là où il y avait la sculpture.
Et tu retrouves le même bois ?
C'est la même essence, ouais. Après, j'ai enlevé le moins de matière possible. C'est pour ça que j'ai vraiment enlevé juste les bouts. Pour faire mes entures et pour ajouter mes pieds.
D'accord. Donc, ça, c'est la partie nouvelle.
Voilà. Et après, je la sculpte. je la colle, je la mets en place, je la sculpte. Et après, je vais essayer de la vieillir et de rattraper la couleur pour que ça se fonde au mieux dans l'objet. Ouais.
Dissonance.
Romain Solier.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Okay, donc moi, je m'appelle Romain Solier, j'ai 27 ans. Donc je suis restaurateur et conservateur de mobilier ancien. Donc je suis installé à Montlaur, au cœur du Rougier, dans le sud d'Aveyron. Et ça va faire, c'est la troisième année là. Donc voilà, je consacre mon temps à restaurer du mobilier ancien. C'est vraiment conserver au maximum le mobilier qui nous est venu jusqu'à nos jours. Comme on dit, qui a traversé les siècles, les années, et qui est arrivé jusqu'à nos jours. Avec le travail qui a été fait dessus, l'histoire qu'il a et la valeur qu'il a aussi, sentimentale, esthétique et financière aussi. C'est-à-dire que si c'est des meubles de pur style ou très anciens, ils ont une cote et ils peuvent coûter des fois jusqu'à 1 million selon les meubles, selon quel ébéniste y a travaillé dessus, est-ce qu'il est estampillé, les matériaux, son origine, ainsi de suite.
D'accord, tout un travail. De restauration pour garder l'âme de l'objet et faire en sorte qu'il puisse perdurer à travers les siècles.
Voilà, c'est ça. Ouais.
C'est ça.
Et conserver au maximum l'objet à l'origine et dans l'état qu'il est. Et s'il y a eu des changements et transformations au cours des années, les conserver aussi car ça fait partie de l'histoire de l'objet. Pas le remettre comme il a été fait à la base, forcément.
D'accord. Et tout ce que tu rajoutes à l'objet qui a été détérioré est quelque chose qui peut être réversible.
Voilà, le but c'est de faire un maximum de travaux réversibles. Mais après, on ne peut pas forcément tout le temps faire tout réversible. C'est pas possible, mais au maximum possible. Voilà, le but de que ce soit réversible, ouais, c'est pour plus tard, s'il y a de nouvelles techniques, de procédés plus intéressants, plus adaptés aux objets. Ce que j'ai fait peut être enlevé et après changé et restauré d'une meilleure façon peut-être, ou différemment dans le temps. Ou même si dans le temps, ma restauration, l'objet se redégrade, et que ma restauration s'abîme, enfin la partie que j'ai restaurée s'est abîmée avec l'usure du temps, elle peut être enlevée et après rechangée pour repartir encore sur un objet et faire durer encore quelques années.
Tu travailles sur des objets du passé pour qu'ils servent au présent et tu penses déjà au futur aussi.
Voilà.
D'accord. Et quel est le parcours qui t'a conduit à faire ce métier d'art ?
Alors, c'est un peu... Je suis un peu éparpillé, on va dire. Au début, j'étais plus concentré sur la menuiserie. Donc j'ai fait un BEP, bac pro menuiserie. Ensuite, la menuiserie, comment dire, un bac pro, j'étais un peu, c'est pas écœuré, mais j'étais un peu déçu de l'aspect tout informatisé, tout automatisé, très peu de travail manuel. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment travailler à mes mains, un peu l'histoire de l'art, le geste, et tout ça. Je trouvais ça, la tradition, assez jolie. Tout ce qui est à travers le meuble et tout, donc je me suis dirigé vers de la sculpture. Donc j'ai voulu apprendre le dessin à l'école Boulle. Donc j'ai fait un an de mise à niveau à l'école Boulle, on a appliqué. C'est une école spécialisée dans ce qui est travail, métier d'art, travail manuel. Donc ça peut être dans le bois, l'ébénisterie, la marqueterie, la restauration de meubles. Il y a le design d'objets, il y a tout un tas de métiers d'art et de formation dans cette école.
C'est une école
qui est assez réputée, ouais.
Il est très difficile d'y rentrer, non ?
Il y a une bonne sélection, ouais. Après, on peut avoir la chance d'y rentrer sur dossier, ouais, faire un bon dossier et être motivé. Après, je pense que faut essayer si on peut. Et il y a des fois des. Moi, je pense que c'était un peu une chance. Je viens de comment dire, d'un domaine professionnel, déjà, de bac pro. Et les sélections sont faites maintenant par Internet. Et ils sélectionnent tout le monde sur dossier. Et ils favorisent tous les gens qui viennent de S, ES, avec des mentions très bien, très très bien. Donc en venant de Bac Pro, déjà, ça ferme l'horizon pour après continuer là-dedans, pour faire un DMA ou autre chose. Alors que j'étais déjà dans le métier du bois, j'avais déjà une connaissance technique, mais après, ils visent plutôt des gens qui sont, qui sont meilleurs dans les domaines généraux, et pour après tout leur apprendre et qui puissent se diversifier plus facilement, je sais pas. Après Boule, j'ai fait trois demandes. J'ai demandé est-ce que je voulais travailler, je sais que je voulais faire un travail avec moi-même. Donc j'ai demandé la sculpture à l'école Boule. Après, j'ai fait une demande en lutherie et en restauration de mobilier ancien. Du coup, j'étais pris en restauration de mobilier ancien. Donc je suis allé là faire mes deux ans de DMA à Revel, diplôme des métiers d'art, option restauration de mobilier et conservation. Et là, après, donc, j'ai fait mes deux ans, j'ai eu mon diplôme. Puis je suis sorti travailler dans la vie active.
Est-ce que c'est un métier où tu te voyais déjà enfant? Non, pas du tout, ça ne correspondait pas à... Parce que il faut savoir pour les auditeurs, donc tu es fils de menuisier, petit-fils de menuisier.
Voilà, ouais. De ma famille, ouais, c'est menuisier. Mon arrière-grand-père était charron, mon grand-père était charron, puis après menuisier. Et mon père est menuisier. Ma mère est menuisière aussi. Donc je baignais un peu là-dedans, mais quand j'étais tout petit, je voulais pas du tout faire ça, je voulais pas du tout faire comme eux. Ça ne m'attirait pas du tout, ouais. C'était un peu, je sais pas, repoussé par le métier des parents, vouloir faire autre chose, je sais pas, son indépendance un peu, mais après finalement, ouais, je suis tombé amoureux de ce métier, ouais. Après, la restauration de mobilier ancien en soi, je connaissais pas du tout. C'était pas un métier que je connaissais. Donc je fais un stage chez un restaurateur à Durfort, donc qui doit être maintenant à la retraite. C'est lui qui m'a donné la passion du métier, parce qu'il était très, très pédagogue. Et il était vraiment ouvert, il donnait tout ce qu'il avait au niveau historique, savoir-faire. C'était vraiment très très intéressant. Donc c'est lui qui m'a donné l'amour du métier. Et après j'ai travaillé un an à côté de Caussade pour faire des boiseries. On faisait des boiseries, restauration et fabrication de boiseries pour des châteaux anciens. Des châteaux et on travaillait sur Paris, en Angleterre, un peu partout. Et après je travaillais un an en Angleterre en restauration de mobilier ancien. Je suis dans une entreprise qui travaillait pour les antiquaires du Louvre et quelques musées, enfin quelques châteaux et quelques musées.
D'accord, et tu te retrouves aujourd'hui dans un atelier qui est en face de celui de ton père et à côté de la forge de ton arrière-grand-père.
Voilà, oui, donc après j'ai voulu m'installer, enfin revenir dans la région. Après c'est mon choix de vie. Et du coup, j'ai voulu continuer à faire ce métier. Donc ma seule solution était de m'installer. Parce que dans le secteur, il n'y a rien. Sinon, il aurait fallu que je reparte sur Paris ou Bordeaux, où j'avais des possibilités de trouver un poste. Donc, je me suis installé ici, et le moyen de m'installer, ça a été de raménager les locaux de mon grand-père, qui était utilisé en stock, de façon à ne pas avoir à payer un local, les machines ne sont pas loin, donc pour partir sans trop trop d'investissement.
Thank you.
m'as montré là, tu vas pas les réinsérer ? Non, du tout. Tu
ça, pas... non. Ça, d'accord. Je les ai enlevés parce que c'était vraiment les parties où il y avait. Enfin, tu pouvais pas les garder, c'était trop friable.
D'accord,
trop
d'accord. Abîmé.
Donc après, le but c'est de perdre le moins de décor possible. Quoi. Là, j'ai perdu un peu. Là, j'avais perdu beaucoup parce que voilà, il était ouais. complètement attaqué à l'intérieur et tout. Après, le top, ça aurait été de. Avec de la résine à rabois, enfin la résine c'est pas réversible, mais bon, de combler complètement et après de coller en dessous. Mais après, ce serait plus pour amuser ou pour. Parce que pour les particuliers, ils veulent pas forcément
oui, garder la
voir des traces. Ouais.
Dissonance.
Romain Solier.
Sur Radio Saint-Afrique.
Donc dans ton métier, tu rénoves des meubles anciens, mais tu travailles aussi avec des outils anciens.
Ah oui, j'utilise toutes les techniques anciennes. Enfin, toutes les techniques. Énormément de techniques anciennes et des outils anciens, ouais. Des vieux rabots, je fais du plaquage au marteau, donc dès que je trouve des vieux outils qui sont intéressants, je regarde, je les retape, je refais les lames, je les essaye, et après je travaille pour avoir les mêmes outils, les mêmes traces d'outils sur les meubles, pour garder au maximum la façon façonner un meuble avec les vieux outils. Ça a un rendu esthétique différent de façonner un meuble avec des outils récents. Au niveau de l'esthétisme à la fin, on le retrouve sur l'objet, au niveau des traces et au niveau du style de l'objet. C'est intéressant et c'est plaisant, ouais, c'est vraiment du travail. C'est l'inverse de du temps. C'est un peu du travail, il faut être patient, prendre son temps, alors que maintenant tout est fait pour aller vite. Alors que là, c'est l'inverse, on ne peut pas aller très vite. Il faut faire le plus vite possible, bien sûr, mais bon, on est obligé de prendre le temps, ça met beaucoup plus de temps, de s'appliquer, d'essayer d'arriver à faire le même geste qu'à l'époque, ainsi de suite, donc c'est intéressant. Oui. Il y a une recherche aussi historique au niveau des gestes, de qu'est-ce qui était fait, pourquoi, comment travaillait le bois, quelles essences étaient utilisées, selon les contextes historiques et tout, donc c'est assez intéressant, c'est un milieu assez varié. Il y a des recherches aussi chimiques au niveau des finitions, ainsi de suite. Donc il y a un peu de chimie, un peu d'histoire, un peu de travail manuel, les anciens outils, les nouvelles technologies, en oxyde, pression d'oxygène, les nouveaux traitements qui sont effectués. Donc c'est un mix de tout ça qui est allié pour faire restaurer au mieux les meubles.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu travailles sur des objets qui ont une âme, qui ont une histoire, avec des outils qui ont une âme, qui ont une histoire aussi. Quand tu travailles sur un meuble du 18e siècle, c'est comme si tu étais toi aussi au XVIIIe siècle avec des vieux outils de cette époque-là. Non, je sais pas. Mais...
Ouais, après, on ne fait pas tout avec des vieux outils. Je ne peux pas tout faire avec des vieux outils comme à l'époque. J'utilise quand même les nouvelles technologies qui sont plus adaptées des fois. Mais après, j'essaie de m'approcher au maximum des traces d'outils laissées qui soient identiques à celles de l'époque. Après, les découpes de marqueterie que je vais faire au chevalet. Mais je ne vais pas les faire au boc-fil, au 18e, mais découper au boc-fil. Après, au chevalet, c'est quand même plus précis, plus stable. Donc, il faut allier un peu des deux.
Oui, il y a tradition, rénovation,
technique. Il faut arriver à trouver le juste milieu, oui.
Ce qui est intéressant dans votre métier, dans tous ces gens qui font des métiers d'art, de recréer, pas du neuf, mais de conserver la patte du passé avec les outils d'aujourd'hui, avec les nouveaux moyens, les techniques en tout cas. Parce que tu utilises beaucoup de cire, tu fabriques tes pâtes.
Après, j'essaie de tout fabriquer, c'est pareil, c'est beaucoup de recherche. Donc dès que j'ai un meuble, je regarde la finition qu'il y a, de quelle époque il est, de quel style. Après, je fais des recherches à cette époque, quelle finition a été utilisée, quelle teinte utilisée, teinte à l'eau, il n'y a pas encore de teinte chimique. Donc quels étaient les procédés. Après, j'essaie de les refaire au maximum. Et d'utiliser des vieilles techniques, enfin des vieilles méthodes pour les teintes, pour les cires pareil, je me les fabrique, je me les teinte. Tout ce qui est finition, j'essaie de me le faire. Tout ce qui est finition traditionnelle, je sais pas comment dire, voilà, pour essayer de retrouver au maximum la patine de l'époque.
Et quand tu rénoves un meuble, est-ce que tu te considères comme un passeur de mémoire, c'est-à-dire tu transmets la mémoire de l'artisan qui a travaillé sur ce meuble, la mémoire de l'histoire de l'objet, ou alors comme l'auteur d'un nouvel objet?
Non, c'est pas moi-même, mais je le restaure, ouais, comme si c'était pour moi. Donc des fois, quand ça part, ça fait un peu, c'est un peu dur. Des fois, quand on travaille sur un joli objet et tout, on se dit, c'est un peu comme si je travaillais pour moi en fait. Mais après, le but c'est que ça se voit le moins possible. Donc des fois même je fais des choses et ça se voit pas forcément. Donc du coup il faut expliquer au client qu'est-ce qui a été fait, le temps que ça a pris, pour expliquer aussi et justifier le tarif. Parce que le but c'est que ça se voit le moins possible, mais après si le client voit, enfin il y a certaines choses qui ne se voient pas et qui ont demandé énormément de temps. Là les recherches au niveau finition, c'est ça qui donne énormément de temps la finition. à peu près c'est 50% du temps se passer sur l'objet. Et ça, à la fin, on voit une finition, on ne sait pas le temps qui a été passé derrière pour la réaliser, pour les recherches au niveau de la teinte, l'ajustage, les reprises, les ratés, refaits, ainsi de suite, pour que ce soit le plus parfait possible.
Tu parlais de tarifs, donc tu travailles avec des gens qui ont quand même les moyens de pouvoir s'offrir ton travail.
Oui, après, il n'y a pas... Comment dire, oui, les moyens, on peut parler de moyens, mais c'est pas... ça peut être... une valeur sentimentale aussi.
Oui.
Donc après, les moyens, ça dépend vraiment de l'objet.
Voilà, si tu as
l'objet, du sentiment, la valeur que ça, sentimentale ou après financière pour certaines personnes.
Et travailler pour des... Donc tu as déjà travaillé pour un musée, enfin pour des musées quand tu étais en Angleterre?
Quand j'étais dans notre entreprise, oui. Travailler pour des musées, oui.
Est-ce que ça ne serait pas une voie qui te tenterait, ça de...
Après, pour travailler pour des musées, c'est intéressant, mais il faut arriver à rentrer, on va dire, dans le cercle... Dans le cercle des musées, il faut des musées qui aient des finances déjà pour faire restaurer leur stock. Parce que les stocks des musées sont remplis de meubles anciens et qui sont là et qui attendent d'avoir des finances pour être restaurés. Et après, il faut aussi une agrégation, normalement un agrément. Il faut au minimum 5 ans d'expérience et il faut avoir un agrément normalement.
C'est pas quelque chose que tu vises pour le moment, non?
Pour le moment, non.
Non.
Pour le moment, j'essaie de m'installer correctement. De m'équiper tout ce qu'il faut pour faire l'anoxie, pour travailler le mieux possible, et après peut-être je viserai...
Et dans le secteur, tu es le seul à faire ce métier?
Spécialisé là-dedans, ouais, je suis le seul. Il y a quelques ébénistes qui font de la restauration, mais spécialisé qui fait que ça, ouais, je suis le seul.
Le seul sur l'Aveyron, sur Midi-Pyrénées, sur l'Occitanie?
Sur l'Aveyron, je pense, ouais. Après, j'ai pas fait de recherche approfondie pour savoir si j'étais le seul, mais dans l'Aveyron, ouais, je suis un des seuls, ouais.
Qu'un gigolo, que fa son numéro, qu'a d'un coulis la musique, qu'a de danse à pagan, qu'a de rhum et sa crumpa, la passe de far l'abico. Ma l'ojo vendra, que le jour se passera, et que dirò le monde, acabat le numéro, et ripasse qu'un gigolo, qu'a lâché le ponde. Sul pacco indicolo e famo numero, cado in cuneis la musico, cado dezze zappaga, cado rum in sacrumpa e a pas per far l'amico. Ma luce vendrà che la vita passerà e se la plenten d'accavat mu numero, fughe il pacco indicolo, ma scalse in giovene. Malauros, malauros que te su, y a paso un amoroso per cuanto ya me ha habido, sabes pichulo, sabes pichulo. Thank you.
déjà avoir une idée de comment prendre mon bout de bois. Et après, ouais, c'est petit à petit, on prend et essayer de suivre le tracé au mieux et de s'accorder au mieux avec ce qui était. Après, il y a le but aussi, c'est de regarder comment a été fait la sculpture. Parce qu'il y a beaucoup de traces d'outils, est-ce qu'il n'y a pratiquement pas de traces, et ainsi de suite, pour essayer de la reprendre au mieux possible. Et respecter le travail qui avait été fait avant. Après, c'est sûr que il faut avoir une petite initiation à tous les domaines quand on fait la restauration. C'est-à-dire que s'il y a la sculpture, il faut savoir reprendre un pied à sculpter. Et après, le but, c'est pas de tout savoir faire parfaitement, parce qu'on apprend tous les jours. On ne peut pas tout savoir faire. Donc, avoir une initiation en sculpture, savoir un peu reprendre un pied. En marqueterie, s'il faut refaire un bout de marqueterie, savoir le découper, faire un vernis au tampon, enfin il faut des bases un peu partout. Et après, on les approfondit au fur et à mesure.
Romain Solier.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Quand tu reçois un meuble, une chaise, une armoire, un buffet, etc., est-ce que tu travailles uniquement pour maintenir une tradition ou est-ce que c'est aussi pour réinventer ce métier en essayant de créer, tiens, une nouvelle cire, une nouvelle... En quoi tu peux... Tu peux, toi, apporter ta patte là-dessus ?
Il n'y a pas de partie créative proprement dite sur l'objet. Mais après, c'est plus de la recherche, on va dire. De la recherche, de la découverte, que de la création. Il n'y a pas vraiment de création. Après, il peut y avoir de la réinterprétation, de la recherche au niveau des motifs, s'il y a un motif de marqueterie qui a disparu. Donc là, il y a tout un travail de recherche pour savoir quel était le motif, le tracé, ainsi de suite. Le dessin, pour retrouver le dessin, et recréer ce dessin identique à ce qu'il pouvait y avoir. Donc il y a une part de doute, bien sûr, et voilà, la partie créative, en gros, elle se limite là.
Et tu n'aurais pas envie, avec le savoir-faire que tu as, avec tout ce que tu connais dans les produits, dans la technique de la gouge, du rabot, etc., d'un jour de pouvoir créer quelque chose ? Parce que tu étais passionné par la sculpture, toi, à une époque.
Ouais, ouais, j'aime bien la sculpture, ouais, mais après, la création en elle-même, non, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait.
D'accord, c'est pas une voie
que... C'est-à-dire que dans la restauration, il y a déjà tellement de choses à découvrir que même les restaurateurs qui sont près de la retraite, ils disent qu'ils découvrent tous les jours des choses, au niveau des techniques, au niveau des procédés, au niveau des façons de travailler. Pour acquérir déjà une technique, c'est long, il faut s'entraîner, il faut essayer, ainsi de suite. Donc il y a tellement de choses à découvrir au niveau histoire et tout, déjà, c'est déjà, je trouve, un métier complet. Et faire de la création en plus, c'est vraiment totalement autre chose. Non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Peut-être que après, je ne dis pas faire des petites créations pour moi, mais faire de la création pour en vivre, non.
Et ce savoir-faire, tu vas aussi le transmettre, toi, à quelqu'un. Tu reçois des stagiaires, tu reçois des...
Mais pour l'instant, pas pour le moment. Pour l'instant, ça fait pas très longtemps que je suis installé.
Oui, c'est vrai que tu es tout jeune.
Mais après, oui, j'espère pouvoir recevoir des stagiaires et à mon tour transmettre ce savoir-faire.
J'ai rencontré quelqu'un qui me disait que le métier d'art était un métier hybride parce qu'il était forgé par des maîtrises séculaires passées qui reliaient la main à l'esprit et puis par l'évolution de savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. Et donc il me semblait que ce métier se situait à la croisée de la tradition et de l'innovation. L'innovation, toi, tu l'as comment, en créant tes produits en...
Nous, l'innovation, c'est plutôt dans l'innovation technique. Donc tout ce qui est justement traitement par anoxy, serrage sous vide, de nouveaux procédés, nouvelles techniques qui permettent de mieux restaurer. Donc c'est vraiment au niveau technique, de nouveaux produits, de nouvelles colles, c'est plus au niveau de la chimie, c'est vraiment au niveau technique.
Et tu as aussi donc à te plonger dans la chimie pour créer...
Mais il faut savoir un peu s'il est... avoir une notion, une base de chimie, enfin de chimie, pas approfondie forcément, mais quelques bases, ouais. Si c'est, il faut savoir si on va passer une gomme là qui est neutre ou acide pour pas que ça oxyde si on le reste sur des métaux, ainsi de suite. Et il faut savoir quel produit réagirait mal avec tel tanin de bois, ainsi de suite. Selon les tanins, le produit réagit mal et fait ressortir le tanin, ou ainsi de suite. Pour niveau des finitions, il y a quelques notions à avoir.
Il y a des notions qui t'ont été apportées dans les écoles où tu as fait la formation, mais que toi tu découvres aussi peut-être au fur et à mesure.
Oui, bien sûr, en faisant des recherches, on sait qu'il faut faire tel mélange ou qu'il ne faut pas faire tel mélange, ou en faisant des essais des fois aussi. Hein.
Oui, voilà.
Enfin, on a les surprises et on apprend, on se dit ça, il faut éviter, ou ça, c'est bien, ça marche bien, ainsi de suite.
D'accord.
Donc là, il faut absolument noter et c'est pour s'en rappeler, parce que à chaque fois, à chaque finition, selon les dosages, il y a des différentes réactions. Ouais.
Donc tu disais que c'est un travail où il y a autant de recherche que de réalisation technique, et tu passes donc sur un meuble, tu peux passer 2 mois à y travailler des fois ou plus.
Après ouais, sur les objets, ça dépend vraiment du travail qu'il y a à faire. Ouais. Je peux y passer 2 mois, 3 mois. En Angleterre, j'avais travaillé sur une table, j'avais passé 6 mois dessus. Donc ça dépend vraiment du travail qu'il y a à faire.
6 mois avec 50% de recherche et 50% de...
Non, c'était 6 mois de travail. Après, la recherche se fait en même... Enfin, c'est un complément, c'est en même temps. On est en train de travailler, et on se pose des questions sur la technique à utiliser, comment faire, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériau. Là, on s'arrête. On va faire des recherches, on regarde vraiment ce qui a été utilisé. Une fois qu'on a trouvé à peu près les méthodes et tout, on fait des essais. Et si les essais sont concluants, on va travailler enfin sur l'objet. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit à l'erreur sur l'objet. C'est un objet du passé, je ne peux pas mettre un coup de... une mauvaise finition qui va rentrer en profondeur et qui va abîmer l'objet et qui va se voir qu'à faire une tâche d'une mauvaise restauration. On n'a pas le droit de se tromper une fois qu'on travaille sur l'objet. Donc il faut vraiment faire des tests et des essais préalables. Enfin, la marge d'erreur, c'est au niveau de ce qu'on va rajouter. Il faut que ce soit réversible. Donc ça, c'est notre marge d'erreur. Mais le but, c'est vraiment de ne pas faire d'erreur pour pouvoir avancer et pas... Parce qu'à chaque erreur, on est obligé de renlever et de refaire. Parce que le but, c'est de faire le travail le plus propre et le plus parfait possible, qui se voit le moins possible.
D'accord, donc il faut pas qu'on voit ton travail.
Voilà, en fait,
c'est un métier où il faut pas qu'on voit ton travail.
c'est frustrant, métier, non? Oui, ouais.
Non?
Des fois, oui. On y passe un temps fou, et puis quand on voit le résultat fini, on se dit, bon, mais ouais, il faut regarder les photos, des fois, pour voir ce qui a été fait.
Voilà, avant, après, quoi.
Voilà, ouais, parce que sinon, on oublie, on se dit, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois?
Donc, quand même pas, mais... C'est un métier où si on voit pas ton travail, tu es content. Ça veut dire que tu l'as parfaitement réalisé.
Si oui, s'il y a certaines, certaines pièces qu'on a changées et qui sont censées ne pas se voir, c'est bien si le client dit « Ah, ben, je sais pas, si je me souviens plus, il manquait une pièce » ou « Ah oui, là, c'était là » et qu'il le voit pas. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est le top, oui.
Ouais, c'est...
Et après, ça dépend, parce que si c'est la conservation, ça dépend des objets aussi, parce qu'il y a la conservation, enfin, on va mettre des pièces qui se voient exprès, de façon à voir qu'est-ce qui a été restauré. Si on n'a pas des pièces manquantes, absentes, par exemple sur une armoire, n'importe quoi, des pieds arrière complètement vermoulus, attaqués, on va les stabiliser et faire 2 blocs, par exemple, en plastique, qu'on va mettre dessous, donc qui se voient, pour montrer voilà, comment, dans quel état a été reçu l'objet et conserver l'objet, tout en pouvant le mettre en place et le soutenir. Par exemple, pour des musées, tout ça, le but, c'est de voir ce qui a été fait et comment était l'objet à l'état initial reçu, quoi.
D'accord, c'est comme dans un musée, quand des fois il y a de vieilles poteries qui sont reconstituées, la pièce manquante est mise en noir alors que la poterie est d'une autre couleur, quoi.
Voilà. Alors des fois c'est le but, c'est de voir, et des fois c'est que ça se voit pas, ça dépend pour qui on travaille et quelle est la part aussi de la valeur de l'objet.
Et toi, qu'est-ce que tu préfères, hein, la version où ça se voit ou ça se voit pas?
Niveau technique, c'est plus difficile que ça se voit pas, c'est plus un défi. Et après, certains objets, c'est vraiment intéressant de garder la partie restaurée visible, de façon à voir vraiment comment était l'objet, c'est vraiment intéressant aussi.
J'ai vu sur un site internet que tes passions étaient entre autres l'art et la culture.
Mais là, en fait, c'est l'art plutôt autour du mobilier, toujours, hein, autour du meuble, parce que, comment dire, c'est un peu complet, parce que je trouve que c'est assez complet ce métier, parce que je pars de la technique, moi je suis assez technique. Du coup, je parle du métier manuel, vraiment la technique, tout ce qui est travail, les méthodes utilisées, tout ça. Et de ces méthodes, j'apprends que cette méthode était utilisée parce qu'ils avaient tel métaux. Pourquoi ils avaient tel métaux? Parce qu'il y avait tel contexte historique, ainsi de suite. Pourquoi ces motifs étaient utilisés? Parce qu'ils cherchaient du textile au niveau architecture. On élargit vite les cercles dans les recherches et on obtient vite un contexte historique, des méthodes, d'autres procédés dans le textile, dans l'architecture. Donc c'est assez intéressant. On part d'une technique, d'une base, et en faisant les recherches, on arrive à toute une époque et tout un contexte historique.
C'est passionnant. Donc
c'est assez intéressant. Enfin, on apprend c'est la culture personnelle après. C'est des recherches qui sont poussées plus ou moins selon les intérêts des gens, mais ouais, c'est intéressant.
Mmh.
fais au maximum à la même. Et après, donc, je me fais tout ce que je vais utiliser. Je me fais les teintes. J'essaie de faire au maximum les teintes à l'eau. Donc, avec la chicorée, du brou de noix, du café.
Et c'est des techniques qui étaient utilisées au 15e, au 16e, tout ça. D'accord, voilà. Tu reprends les vieux.
Après, il y a quelques teintes chimiques avec du bichromate, enfin, quelques procédés. Mais je reprends des vieilles recettes et je fais au maximum.
Dissonance.
Romain Solier.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Donc, le grand public t'a découvert lors des journées européennes des métiers d'art. C'était en avril 2016. Tu as eu du monde qui est venu te voir à l'atelier, qui a discuté avec toi.
Voilà, j'ai ouvert l'atelier pour 3 jours. Donc, en montrant vraiment au public ce qui est fait dans cet atelier. Donc, restauration et conservation, en expliquant toutes les étapes de recherche, de travail, de réalisation, le temps qu'on y passe, que tout est fait à l'atelier, les teintes maximum naturelles, les cires, toutes les finitions. Et après, en expliquant des techniques et en montrant aussi comment reconnaître un meuble du 18e, un très ancien, un meuble fin 19e ou début 19e, récent, enfin plus récent, par rapport aux épaisseurs de plaquage, aux traits, aux queues d'arônes utilisées, enfin ainsi de suite.
Quand je présente l'atelier,
au début c'est un peu difficile, puis après j'ai plus de... À la fin de la journée, c'est plus facile à expliquer les choses, quand je prends un peu l'habitude de dire quoi, comment...
Leur curiosité portait sur quoi? Sur ta technique?
Mais c'est pas trop le métier de... C'est pas connu le métier de restaurateur, de mobilier en fait. Restaurateur et conservateur, les gens, ils pensent à ébéniste, menuisier, mais restaurateur et conservateur, ils savent pas vraiment en quoi ça consiste. Après, c'est normal, enfin, le vernis au tampon, tout ça, qu'est-ce que c'est, quelle époque ça date, les gommes-lacs, enfin, c'est vraiment des trucs spécifiques, quoi. Les sécrétations de cochenille, qu'est-ce que c'est, tout ça qui les intéressait. Des sécrétations de cochenille qui sont récupérées, séchées et mises sous forme de paillettes. La cochenille, c'est un insecte qui est sur les arbres en Asie, et qui sécrète une sorte de liquide qui sèche, ça fait une résine, ou qui récupère et qui font sécher sous forme de paillettes, et que nous, on redilue dans l'alcool. Et avec ça, on vernit les meubles. Mais après, il y a l'aspect aussi que ce vernis est très très intéressant parce qu'il est à l'alcool. Donc on peut cirer un meuble et mettre un coup de vernis par-dessus la cire. Le vernis va traverser la cire et s'accrocher quand même. Alors que si on met un vernis récent sur de la cire, ça m'étonnerait qu'il y ait un bon résultat. Donc c'est assez intéressant au niveau du travail et c'est une méthode ancestrale. Et pareil, il y a plein d'autres petits trucs, des détails qui intéressent les gens. La colle d'os et de nerfs, qu'est-ce que c'est? C'est de l'os et du nerf, vous utilisez? Oui, c'est de l'os et du nerf, comme les bonbons, je leur dis à chaque fois, comme les bonbons Haribo. Avec l'os, c'est la gélatine, et le nerf, ça fait le côté plus cassant de la colle. Donc on joue avec ces deux, à mélanger à chaud, utiliser à chaud. Enfin, c'est des techniques, c'est un peu de la cuisine, quoi. Et du coup, les gens trouvent ça assez intéressant, ouais, je trouve.
Comment tu fais la différence donc, entre un meuble du 18e, du 19e, par les plaquages, mais aussi par les motifs, par les formes?
Ah oui,
les formes.
Tous les éléments décoratifs, après les structures, les formes, les queues d'arônes, les assemblages, les techniques de collage, enfin, il y a plein... Tout un panel d'éléments qui font qu'on peut repérer, qu'on arrive à savoir de quelle époque est l'objet, ouais.
À cette époque-là, ils n'utilisaient pas de vis, c'était que de la colle.
Ah si, si, il y avait des vis, ça fait trop longtemps qu'il y a des vis, ils étaient faits, c'était des vis limées à la main, forgées et limées, et pas des vis étaient limées, donc c'est des vis qui sont un peu carrées, elles ne sont pas moulées comme aujourd'hui, il y avait pas mal de pointes forgées aussi, après on utilise sur des beaux objets, il y a très peu de vis et de pointes forgées après. C'est surtout ouais, des collages, et après oui, s'ils avaient des vis en laiton, des petites pointes en laiton, pareil qu'aujourd'hui. Après, c'était juste là, au niveau de la fabrication. Si on regarde une pointe forgée moulée, c'est récente, imitation ancienne, et une pointe récente, ça n'a rien à voir. Donc il faut savoir repérer les éléments. Une pointe forgée, elle est carrée, on voit qu'elle a été forgée, on voit des traces de marteau dessus. Une pointe forgée, imitation forgée, on voit un joint, le joint de la coulure, quoi, quand elle a été coulée. Qui n'a pas été limé, parce que si on lime chaque pointe, c'est un peu long. ainsi de suite, donc il y a tous ces éléments à regarder. Après, il y a les meubles aussi qui ont été copiés, des copies d'anciens qui sont plus récentes. Il faut arriver à trouver l'élément qui va montrer que c'est une copie et que ce n'est pas un original. Par exemple, si c'est un meuble Louis XV, il faut savoir si c'est une copie qui a été faite sous Napoléon III ou au XIXe, ou si c'est vraiment un meuble Louis XV. Donc là, il faut regarder les épaisseurs des plaquages, les colles utilisées, les techniques, les assemblages, les queues d'aronde, les espacements. Et les belles copies qui étaient faites identiques sont assez dures à identifier.
Si c'est vraiment de l'époque. Donc tu fais un métier, c'est un travail très minutieux, très lent aussi.
Oui, oui.
Avec beaucoup de concentration. Et
il faut, ouais, il faut. Il y a beaucoup de temps d'essai et d'entraînement. Ouais. Par exemple, si on voit de nouvelles techniques qu'on ne sait pas trop, qu'on ne maîtrise pas trop, il faut s'entraîner un peu avant pour essayer de faire au mieux après sur l'objet. C'est assez divers. Il y a de la sculpture, il y a de la marqueterie, il y a de la finition, il y a du plaquage, il y a un peu de menuiserie. Donc, il y a un peu de... C'est assez divers.
Tu serais content qu'un jour, quelqu'un frappe à la porte et t'amène un truc extraordinaire.
Oui, bien sûr. Mais tu sais, n'importe quel objet, ça fait n'importe quel objet, oui. Moi, je suis satisfait de n'importe quel objet. Il suffit qu'il soit ancien et qu'il y ait une certaine patte de travail. Enfin, qu'on voit que le travail a été fait à la main, que c'est un joli travail. N'importe quelle est la valeur de l'objet, moi, ça m'importe peu. Après, c'est le travail qu'il va y avoir à y faire dessus. C'est ça qui m'intéresse.
Tu es plus
respectueux. S'il y a un peu de sculpture et tout, ouais. Ça, je veux bien. Enfin, j'apprécie. Après, il y a certains domaines que j'apprécie plus. Il y a certaines parties du travail que je préfère. C'est-à-dire, s'il y a un peu de marqueterie, j'aime bien. Après, j'aimerais pas avoir que de la marqueterie. S'il y a un peu de sculpture aussi, j'aime bien. J'aimerais pas avoir que de la sculpture non plus. J'aime bien que ce soit diversifié.
D'accord.
Donc, oui. Un objet, une fois, avec un peu de marqueterie, et ainsi de suite.
Donc,
c'est ça que je trouve intéressant. C'est parce qu'on peut pas qu'une chose.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut t'amener à rénover, Romain ?
Alors, n'importe quel objet du mobilier, enfin, tout ce qui concerne du meuble. Bah, ça peut être chaise, fauteuil, tout ce qui est structure, hein, pas tapisserie. Après, ça peut être armoire, commode, pendule. Ça peut être tout ce qui est autour du meuble. Même quelques portes d'entrée, d'anciennes portes d'entrée. Ça peut être n'importe quoi, table de chevet, chaise.
Et tu te
déplaces. Tout ce qui fait partie du mobilier. Ouais. Alors je vais chez
le client, ouais.
M'envoie un mail, on me dit j'ai un objet à faire restaurer, soit m'envoie des photos de l'objet avec où c'est qu'il est abîmé. L'objet d'abord entier, ouais. Et après les détails de là où il est abîmé. Du coup, je peux de là faire une estimation déjà. Ou je me déplace, je viens prendre des photos, je fais une estimation, j'envoie un devis. Après, si les clients sont d'accord, je vais chez le client chercher le meuble et je le ramène à l'atelier, je le restaure et je lui rapporte.
D'accord.
Ou si ça vient à être des gens qui habitent très loin, après il faut trouver un transporteur et on s'organise avec un transporteur. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça.
Bon, t'as l'air heureux en tout cas dans ton métier.
Ouais.
Tu t'épanouis et ouais, ça correspond à ce que tu imaginais.
Après, oui, ça correspond à ce que je me dis. Après, je trouve que c'est dur de... C'est dur de chiffrer, de faire un devis du temps qu'on va y passer. C'est ça qui est dur de s'en sortir et à se faire payer, à se tirer un minimum à vivre. Ouais. Dans 2-3 ans, j'espère avoir agrandi le local, avoir une salle... pour faire un traitement par anoxy et tous les nouveaux procédés.
D'accord.
Être au top.
Tu as grandi chez la forge de l'Arrière-Empereur.
Voilà. Faire un coin métal à côté, tout ce qui est serrure, ainsi de suite.
Alors, sur la boule, là, ça sert pour dresser. Quand on a une partie courbe, si c'est pas plat, si c'est pas d'équerre ou n'importe quoi, s'il y a un trou, je prends et avec ça, j'enlève les bosses, les creux et je me fais une partie parfaitement rectiligne et plane.
D'accord.
Et là, ça enlève s'il y a une bosse ou un creux.
Ça, tu fais ça à la main, mais les menuisiers font ça avec...
À la dégauchisseuse.
À la dégauchisseuse.
Ouais. Donc, parce qu'à l'époque, c'était pas la main, ça laisse d'autres traces. Enfin, on peut le voir facilement, on passe un coup de dégauchisseuse. On aura les traces de machine qui ressortent à la finition, si on ne ponce pas, si on ne ponce pas. Et moi, je ne ponce pas. Donc je fais ça là, je passe ça, et après, pour la finition, je viens racler le meuble. Après, si des fois je passe un coup, très léger coup de papier abrasif, mais très fin pour la finition, pour casser les bords quand ils remontent et tout. Il n'y a pas de ponçage. Et après, avec ça, je viens enlever le fil pellicule, ce qui me permet d'avoir une finition correcte avant de...
Donc tu es soucieux aussi au fait qu'on ne voit pas la trace de l'outil moderne, mais qu'on...
Ah oui, c'est super important, c'est très important.
Dissonance
sur Radio Centrafrique.
Tu penses que ton arrière-grand-père aurait été content de la voix que tu as choisie? Tu l'as pas connu peut-être?
Non, j'ai pas connu mon grand-père.
Ton grand-père
mais... Ouais, je pense. Après, je sais pas.
Bon, et tes parents qui sont dans la menuiserie?
Oui, je pense qu'ils sont contents. Après, je sais pas si. Après, suffit que je fasse ce qui me plaît, ils sont contents, je pense.
J'ai l'impression que tu es plus attaché à. Plus qu'au meuble et à l'objet, tu es plus. Enfin, peut-être que je me trompe, mais tu es aussi très attaché, peut-être pas plus, mais très attaché à respecter le travail de l'artisan qui a travaillé dessus.
Ah ben oui, parce qu'à chaque fois, on est. Enfin, je pense que beaucoup de restaurateurs pensent comme moi. C'est que. Je suis impressionné devant le travail et la qualité du travail qui a été faite à l'époque, avec le peu d'outils qu'ils avaient. Et vous n'avez pas du tout les mêmes outils que nous, les mêmes machines pour débuter le bois. Quand on pense que les planches étaient sciées à la main, les arbres délignés à la main.
Quand les faisait sécher des années.
Les plaquages aussi, tout fait à la main, plaqué, raboté, tout était raboté, dressé à la main, ainsi de suite. Les moulures étaient faites avec des fers à la main, petit à petit, le temps qui devait y passer. Et le travail qu'il y avait derrière tout ça, c'est quand même assez, assez beau et impressionnant à voir à chaque fois qu'on démonte ou qu'on regarde un meuble, les techniques utilisées. Et c'est de là où on peut faire des recherches, tiens, comment ils avaient fait ça, comment ils faisaient ça. Et c'est ça qui est super intéressant. Et du coup, oui, ça donne un certain respect. Et c'est un défi à chaque fois de se dire, est-ce que je vais arriver à faire pareil que eux, avec les outils, même avec quelques techniques d'aujourd'hui, est-ce que je vais y arriver, quoi. C'est quand même... c'était quand même... Eux, ils faisaient ça depuis qu'ils étaient depuis 11 ans jusqu'à leur retraite. Ils faisaient la même tâche, il y en a certains. Il y en a qui découpaient des planches toute leur vie, il y en a qui faisaient la marqueterie toute leur vie. Ils faisaient que ça, donc ils étaient excellents dans leur domaine. Donc, c'est, est-ce qu'on va arriver à ce niveau d'excellence sur l'objet pour essayer de le dissimuler au maximum, mais que ça se voit pas.
Et quel regard tu portes sur ton métier? Ce qu'il existera certainement toujours dans 2 ou 3 siècles, mais et que les gens auront à rénover du matériel, du mobilier fait aujourd'hui par les menuisiers, les ébénistes actuels. Je parle pas des meubles IKEA et des compagnies, ni la paire, mais voilà quoi, des trucs.
Après, je sais pas si le mobilier actuel pourra être restauré ou si il faudra trouver de nouvelles techniques, mais ça risque d'être compliqué, on va dire. Parce que ça dépend comment il a été fait. S'il a été fait dans le respect de la tradition, c'est-à-dire des cols réversibles et du coup restaurables, ou est-ce qu'il a été fait avec des cols polyuréthane, avec des cols vinyliques, encore les cols vinyliques qu'on arrive à les décoller. Peut-être on trouvera de nouveaux procédés qui arrivent à enlever les cols polyuréthane. Ça risque d'être un peu plus compliqué après le métier.
Peut-être que dans 3 siècles, il y aura un autre Romain Soulier qui travaillera sur ce que tu as fait aujourd'hui, qui sera rénové ce que tes créations, en et fait, oui, tes rénovations en tout cas.
Parce que sur un meuble, on voit. Sur un meuble qui a 300 ans, on compte à peu près une restauration tous les 50, 100 ans, il y a forcément une restauration. Donc sur un meuble qui a 300 ans, vous êtes sûr d'avoir au moins 3 traces de restauration différentes. S'il est arrivé à peu près à nos jours en bon état.
Donc tu te rajoutes à la longue chaîne des conservateurs qui continueront.
Merci à Romain Soulier.
La chronique poélytique d'Elsa Dauphin.
Le roman de Fatou Diom, Kétala, débute avec ces mots. Lorsqu'une personne meurt, nul ne se soucie de la tristesse de ses meubles. Ces meubles qui traversent le temps et conservent l'empreinte de ceux qui sont morts. L'usure d'un plateau de table rappelle cette main qui en caressait le grain pour en chasser les miettes de pain. Dans ce buffet au bois abîmé, elle rangeait le linge de table, les assiettes, les couverts et les pots de confiture. Lui, il s'asseyait tous les après-midi à ce bureau, dans le tiroir duquel il rangeait les documents importants, ainsi que quelques stylos. Ce petit lit aux hauts barreaux a accueilli plusieurs générations d'enfants pour des sommeils sereins. Dans cette armoire, des restes d'odeurs de draps amidonnés ravivent des nuits d'été qu'on passait fenêtre ouverte sur le champ des grillons. Et coincé derrière l'une des tablettes, un papier égaré depuis des années, une lettre d'amour qu'une femme avait cachée aux regards indiscrets. Elle l'aura cherchée longtemps, celle qui n'est plus, et qui, déjà, en ouvrant les vantaux, respirait le parfum de ceux qui étaient là bien avant elle. Par l'entremise des meubles, nous nous souvenons. Ils nous disent l'absence et rendent tangibles ces existences passées. Mais qu'en est-il de ceux qui ont dû quitter leur pays, laissant derrière eux les gravats d'une maison et toutes leurs possessions? Partis pour un exil forcé, les mains vides, ils ont perdu tout ce qui faisait la substance de leur vie. Mais qu'en est-il de ces milliers de personnes qui ont sombré dans les eaux glacées des mers et avec eux tous leurs souvenirs? Souvenirs d'enfants, souvenirs de parents et de grands-parents. Des histoires de vie que peut-être personne ne pourra jamais restituer. Des vies écartées de la mémoire des hommes qui ne veulent pas savoir. Des vies effacées définitivement et dont plus aucune trace ne subsiste, même pas un corps. Et on trouve de braves gens pour clamer haut et fort que s'ils embarquent pour une traversée périlleuse, c'est pour profiter des aides sociales. On trouve de braves gens pour clamer haut et fort que s'ils viennent ici, c'est avec des intentions malveillantes. On trouve de braves gens pour clamer haut et fort qu'ils feraient mieux de rester chez eux, dans le fracas de la guerre ou dans une grande misère. Alors, on se prend à rêver de la parole d'une vieille table en chêne, de celle d'une bibliothèque en merisier un peu bancale, de celle d'un lit au montant lustré par les mots tendres qui s'y échangèrent, pour raconter le bonheur d'un matin, la rumeur de conversations frivoles, l'éclat d'une dispute, les jeux des enfants. Les meubles sauront peut-être pleurer ce que les hommes ne savent pas pleurer. Ils pourront peut-être dire, dans leur langue muette, ces existences anéanties que nous ignorons et se souvenir pour nous d'une humanité disparue.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière, la rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir, tous autour de moi se forcent à sourire, l'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Ce que j'oublierai si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
Vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance. Vous pouvez aussi la podcaster. Vous y trouverez aussi des liens qui vous renverront sur le site internet de Romain Saulier, ainsi que les références des musiques et chansons entendues. Cette émission sera rediffusée lundi 28 novembre à 20h et mercredi 30 novembre à 11h. Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité !